je m'appelle Linda, j'habite à Arras. Donc je me suis déplacée exprès sur Douai pour assister à cette manifestation.
Et je m'appelle Alia et je viens aussi d'Arras. J'ai 14 ans.
Samedi 16 mars 2024, 11h, place d'Armes à Douai. Rassemblement citoyen pour demander l'arrêt immédiat des combats à Gaza.
Il y a l'État d'Israël qui se permet de massacrer des enfants en toute liberté et personne ne fait rien. Aucun État réagit à ce qui se passe là-bas. Et je ne peux pas voir des enfants, des femmes, des hommes, hein, cela dit, se faire massacrer, être en famine sans que personne ne fasse rien.
On a également la réponse d'Israël qui dit nous on répond à un massacre qui a eu lieu et œil pour œil.
Alors moi je vais juste répondre simplement, hein. Il suffit de faire une petite analyse. On est bien d'accord que c'est Israël qui réduit le territoire palestinien, on était en état de Palestine, ils prennent les terres palestiniennes. Et alors on parle de ce qui s'est passé avec le Hamas. Qu'on se rappelle bien, le Hamas a été financé par le gouvernement de Netanyahou. Et maintenant que ça se retourne contre eux, ils punissent un pays entier, la population civile, d'un attentat. Imaginez-vous rapporter ça en France. Imaginez-vous que la France a subi des attentats et fasse punir tous les Arabes, tous les musulmans, de ce qui se passe pour un attentat. C'est une honte, c'est inadmissible.
Comment, nous, civils, on peut influencer finalement sur des questions où on parlait de victimes civiles? Comment, nous, ici, on doit peser?
Le boycott. On ne tape que les gouvernements que par l'argent. Il faut arrêter tous ces financements qui arrivent à l'État d'Israël avec le boycott. Nous, aujourd'hui, on ne peut faire que ça, boycotter ou faire réagir l'État français qui ne veut pas réagir tout simplement. On sanctionne avec l'argent. Le monde ne fonctionne qu'avec l'argent. C'est malheureux de dire ça, mais on ne sanctionne qu'avec l'argent.
Non, c'est la première en fait à Douai, mais tous les samedis pratiquement on allait à Lille. Et avec tous ces humanistes en fait qui ne peuvent pas accepter ce génocide en fait. Donc on va résister jusqu'à l'arrêt de ce massacre et ce génocide en fait. Nous sommes des Français, donc on manifeste en tant que Français. Et si on est fiers de porter le drapeau français comme on est fiers de porter le drapeau palestinien. Parce que la France, pour moi, c'est le pays de lumière, c'est le pays de liberté, c'est le pays de l'égalité. Et je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus la France, en fait. Je ne reconnais plus l'Europe, je ne reconnais plus l'Occident, qui était une locomotive, en fait, de démocratie, locomotive de liberté, locomotive de résistance. Quelque chose qui ne représente plus pour moi, en fait. C'est dommage, mais c'est quelque chose qui est une cassure, en fait, malheureusement.
Et je pense qu'en France, quand même, à partir du moment où les médias vont en parler, où on va voir les souffrances qui se passent, eh ben, je pense que les Français, ils ont toujours été comme ça, j'y crois. Et moi, je suis française d'origine algérienne, mais j'y crois. Je crois fondamentalement au respect de l'autre en France.
Moi, je me reconnais dans toutes les résistances. Je ne dis pas... Je ne suis pas d'accord. Je suis contre le terrorisme. Mais je me rappelle des résistants français. On les traitait de terroristes. Il y a beaucoup de résistants qu'on a traités de terroristes. Je ne suis pas à leur place. Mais bien sûr, je suis contre toute forme de terrorisme. Et je suis contre de tuer des innocents, en fait. Donc, il faut qu'on arrête de nous dire, en fait, chaque fois de nous mettre... Le Hamas, en fait, le problème palestinien existe depuis pratiquement un siècle. Donc, c'est pas maintenant, c'est pas le 7 octobre. En fait, chaque fois qu'il y a un problème, on sort le Hamas. Les Palestiniens, c'est pas le Hamas. Les Palestiniens, sont les Palestiniens.
Vous voyez, à l'époque, il y avait, on faisait des trêves pendant les mois saints. On est monté à moi aussi, hein, j'ai vécu avec cette guerre. Et je trouve que là, on a monté des paliers extrêmement hauts. Extrêmement haut et je ne comprends pas pourquoi personne ne réagit. Mais j'ai de l'espoir et je me dis qu'on va arriver, même des petites choses, on va arriver à bouger et il faut y croire et bouger les choses et taper au porte-monnaie. On n'a pas le droit de rester insensible face aux enfants qui meurent aujourd'hui. Juste ça, c'est notre avenir.
C'est pour ça qu'on est là en fait, c'est parce qu'on croit à une solution, peut-être à un seul État ou à deux États, mais en tout cas en fait... On est condamné de vivre ensemble, en fait. C'est à moins d'aller sur une autre planète, en fait. On est des terriens, en fait. Il faut qu'on trouve des solutions pour vivre ensemble, pour pour construire ensemble. Il y a tellement de choses à construire dans le monde, en fait. Mais quand on voit en fait l'argent qui est dépensé dans les armes, dans l'armement, en fait, c'est triste. C'est triste. Mais moi, je suis plus triste pour la France en ce moment, en fait, parce que je ne reconnais plus la France. C'est ça qui me fait. Voilà.
J'ai toujours été, à titre personnel aussi, pour des raisons d'origine familiale, assez sensible à la cause palestinienne. Et je trouve que c'est important d'être là, particulièrement comme démocrate, pour ne pas, comme centriste, quand je dis démocrate, je veux dire comme centriste, pour ne pas laisser, dans un moment de tension, la cause palestinienne être phagocytée uniquement par des extrémistes, d'un côté ou de l'autre, des pro-palestiniens ou des anti-palestiniens fanatiques, il en existe hélas. Je pense que c'est important que les démocrates ou les modérés soient là. C'est vraiment pour ça que je suis là.
Vous êtes un pro-européen. Est-ce que c'est finalement au niveau d'État qu'on peut régler ça, ou alors c'est véritablement une puissance politique négociatrice européenne qu'il faut aujourd'hui imaginer et inventer ?
Ah, je pense que ça peut être effectivement une raison de développer plus encore l'Europe dans sa puissance économique, dans sa puissance militaire et dans sa puissance politique. Parce que quand vous êtes dans un rapport de force avec, il faut le dire, une disparité de force entre les Israéliens et les Palestiniens, il est clair que les Israéliens n'écouteront que ceux qui peuvent leur imposer quelque chose. Alors pas par la violence, mais ceux qui ont un poids économique ou un poids politique de nature à les faire reculer. Et donc malheureusement aujourd'hui, il n'y a que les États-Unis qui en sont capables et qui sont empêtrés dans leur campagne présidentielle, dans des problèmes d'électorat intérieur. Et de ce point de vue, si l'Union européenne avait un vrai poids politique, elle pourrait imposer une négociation. Je pense que malheureusement actuellement, elle ne le peut pas parce qu'elle n'est pas assez forte.
Quand l'heure du bilan va arriver à Gaza, on redoute le pire ? Sera tous responsables, tous coupables ?
C'est-à-dire que je pense qu'il faudra mettre des mots sur des situations et que actuellement, parce qu'on a peur précisément que certains ne s'emparent de la tragédie vraiment que vit le peuple palestinien à Gaza, on ne met pas les mots. Or, je pense qu'on peut, et certaines instances internationales l'ont dit, utiliser à juste titre et sous un angle juridique le terme de génocide. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on n'ose pas le dire parce qu'on a peur que ce soit récupéré. Et donc, je pense qu'il faudra effectivement, quand on fera le bilan, dire que oui, c'est un génocide, non pas en termes politiques, mais en termes juridiques, avec les implications que cela a en termes de justice internationale. Donc, il faudra, oui, faire un bilan. Et là aussi, il faudra un peu de temps, mais que ce bilan soit objectif et qu'on utilise les vrais termes pour les vraies situations.
Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens.
J'ai ma tante, mes oncles qui sont là-bas actuellement à la bande de Gaza. Donc j'ai de la famille actuellement en Palestine à Gaza, dans la bande de Gaza. Je peux vous parler du cas personnel de ma famille. Ils vivent actuellement sous des tentes au bord de la mer à Khan Younes, leur résidence principale qui a été détruite par l'armée sioniste. Et maintenant, c'est très compliqué pour se nourrir. Ils sont presque dans une situation de famine. Pour obtenir des distributions de convois humanitaires, ils doivent se rendre à Rafah principalement, à pied principalement. Et des fois, ils n'obtiennent, il n'y a plus d'aide au moment où ils arrivent. Et c'est très compliqué. La situation est très compliquée là-bas. Il y a une sorte de double image qu'on donne, par exemple, aux États-Unis. Ils livrent des armes et en même temps, ils donnent un peu d'aide humanitaire. Donc, ils participent au génocide et après, ils montrent, quand les élections présidentielles arrivent, la générosité du gouvernement américain de nous offrir des aides humanitaires. Mais il faut déjà commencer par arrêter de livrer des armes. Et je pense que c'est ce qui est le point essentiel, le point nécessaire pour arrêter le génocide actuel et non pas de réagir en conséquence, en plus d'être la cause même de ce génocide.
Quand Israël dit on a besoin d'armes pour se défendre ?
Se défendre contre qui ? Contre une population civile ? Se défendre contre qui ? Contre une population civile qui subit un blocus déjà depuis 2006 ? C'est très compliqué vraiment cet argument de dire on veut aider à défendre Israël alors qu'Israël est en réalité pas attaqué. Le conflit date bien avant le 7 octobre. Il ne faut pas résumer au 7 octobre.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de votre point de vue du 7 octobre ? Enfin voilà, c'est du terrorisme, c'est un acte de guerre, c'est quoi ?
Il faut savoir que pour moi, on parle beaucoup de attaquer. On dit que le Hamas a attaqué Israël. Il faut savoir que le Hamas a répondu à Israël. C'est-à-dire qu'on subit des bombardements incessants depuis des années et des années. Israël est implanté dans des colonies et ça a été condamné par l'ONU. Il n'y avait pas eu d'action par rapport à ça. L'ONU condamne aussi le blocus à Gaza. Il n'y avait pas eu d'action par rapport à ça. Il y a une impuissance internationale. Et tout ça, malheureusement, le 7 octobre, a été le résultat d'une impuissance internationale.
Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait deux pays, deux patries, chacune pour un peuple. Et donc, on n'est pas anti-israélien parce qu'on est pro-palestinien. En fait, quand on dit qu'on est pro-palestinien, c'est simplement parce qu'on souhaite que les Palestiniens aient leur propre État. Mais on pourrait aussi, je vous rappelle que la France a un engagement fort aux côtés des Kurdes, on pourrait aussi dire qu'on est pro-kurde parce qu'on souhaite que le peuple kurde ait son propre État. Vous voyez, au fond, c'est la même chose. Chaque peuple doit pouvoir disposer de sa souveraineté, de son territoire et de sa libre détermination. Là, c'est vraiment fondé sur un socle juridique et pas seulement sur des affinités. Je rappelle toujours qu'il y a une part non négligeable de la population palestinienne qui est chrétienne, par exemple, et qui d'ailleurs parfois à Gaza est discriminée par le Hamas, évidemment. Et donc en réalité, il y a une solidarité musulmane qui est tout à fait compréhensible et qui est profondément respectable. Mais bien sûr, il faut que la cause puisse être embrassée par d'autres, et pourquoi pas. Les catholiques français sont très engagés, par exemple, dans la défense des chrétiens d'Orient. Les Palestiniens sont, pour une part, des chrétiens d'Orient. Donc on peut les défendre à de multiples titres et pour de multiples affinités. Mais il faut surtout les défendre parce que ce sont des êtres humains que l'on prive de leur terre, de leur dignité, de leur liberté et actuellement même de leur vie.
Toute mobilisation, une fois qu'elle existe, elle est réussie. Peu importe du nombre. Nous avions fait un premier rassemblement non autorisé. On était à peu près entre 70 et 80 personnes. Trois semaines plus tard, on est plus de 200 ici à Douai. C'est réussi et au-delà du nombre, on ne va pas commencer à compter. Nous, ce qu'on veut, c'est passer le message. Rappeler que Douai est une terre de militants pro-palestiniens et surtout pro-droits internationaux. Ici, capitale juridique, judiciaire. C'était le message qu'on voulait passer. C'était le message aussi de dire qu'ici à Douai, on demande le cessez-le-feu, stop au massacre et stop au génocide.
On est aujourd'hui mobilisé pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Et c'est comme ça qu'on espère vraiment bouger les lignes. Prendre parti pour des civils qui sont en train d'être bombardés actuellement à Gaza, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion, il faut être en solidarité avec ces personnes-là. Pour moi, c'est pas prendre position, c'est avoir au moins tout simplement des valeurs humaines et de dire qu'on est contre ce qui se passe actuellement. Il y aura des gouvernements qui devront prendre leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils font, parce que par exemple le gouvernement français livre des armes pour la défense entre guillemets d'Israël et ils sont responsables aussi. Dernièrement, le ministre a dit clairement que les franco-israéliens qui sont partis combattre et pour réaliser un génocide actuellement à Gaza ne seront pas punis. Il y a des choses, en tout cas il y a des choses qui seront à mener après ce qui va se passer, et en tout cas il y aura des plaintes qui vont être menées par pas mal de personnes pour condamner ce qui se passe par rapport au gouvernement français, sa complicité aussi sur le génocide actuel.
Quand on nous dit qu'il ne faut pas importer le conflit ici dans le territoire national, c'est quoi ? C'est un leurre pour ne pas oser prendre parti pour les civils palestiniens ?
C'est ça, tout à fait. C'est pour essayer de faire taire l'opinion publique. Si on ne veut pas prendre parti, pourquoi le gouvernement alors livre des armes à l'armée israélienne ? Si elle ne veut pas prendre parti, elle ne livre pas d'armes. Et tout simplement, si elle livre des armes, nous, on a le droit aujourd'hui de dire qu'on est contre ce qu'elle fait, qu'elle livre des armes, et on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe aussi à Gaza.
Samedi 16 mars 2024, 11h, place d'armes à Douai. Rassemblement citoyen pour demander l'arrêt immédiat des combats à Gaza.
Reportage.
C'est toute la difficulté, on n'en parle pas parce qu'on a peur d'importer ce conflit sur le territoire français. Et je pense que c'est notre devoir d'essayer, les uns et les autres qui sommes engagés dans la vie publique, justement de faire en sorte qu'il y ait une parole française. Et vous voyez là derrière nous, alors on n'a pas l'image, mais il y a un drapeau français. Et c'est un beau signe de fraternité. Et je pense là vraiment qu'il faut que ce soit la communauté nationale française qui peu à peu s'oriente vers une approche qui soit collective. Parce qu'il faut que dans tous les lieux de débat, regardez ce qui s'est passé à Sciences Po, qui est navrant. Parce que Sciences Po, c'est l'élite politique de demain, et l'élite politique de demain se déchire d'une façon qui n'est absolument pas démocratique. Donc oui, il faut être capable de porter une parole démocratique sur ce sujet.
La technique, c'est quoi? C'est aussi un argument. On n'en parle pas parce que ça va ramener le conflit. On va exporter ou apporter le conflit. Mais le conflit de quoi? Le conflit de quoi? Mais c'est dangereux, ces propos. Ça veut dire que c'est sous-entendu que c'est un conflit religieux entre les musulmans et les juifs, et que ici, les jeunes issus des maghrébines d'origine musulmane s'indignent et qui pourraient s'en prendre aux juifs. Mais ce n'est pas un conflit religieux. Ici, c'est juste un problème de droit international. Pourquoi vouloir religiosiser, je ne sais pas si ce mot existe, ce conflit, c'est même pas un conflit, ce massacre. Non, non, mettons de côté la question religieuse. En aucun cas, il est question de religieuse. Aujourd'hui, si on a des jeunes qui parlent de la Palestine, si on a des jeunes qui dessinent des drapeaux de Palestine dans leur agenda, dans leur carnet de correspondance, c'est un acte politique au sens noble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais pourquoi cette situation existe en Palestine? Et nous, quand je dis nous, alors je ne vais pas parler au nom du corps enseignant, mais nous, la philosophie européenne occidentale française, c'est attention, un problème, un jeune d'origine maghrébine, potentiellement musulman, a dessiné un drapeau Palestine. Mais non, c'est un jeune citoyen français qui se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Répondez-lui.
Vous êtes jeune, vous avez 30 ans, comment on fait pour expliquer ça aux jeunes de 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans qui n'y comprennent absolument rien de tout ce qui se passe là-bas, de tout ce qui s'est déjà passé, de l'histoire de la Palestine, de l'histoire d'Israël?
Il y a un problème déjà sur le programme scolaire. Tout simplement, le conflit, si je peux me permettre, même le mot conflit n'est pas le bon en réalité, parce que le conflit c'est un État contre un autre. Là on parle d'un État contre une population civile, mais même cette idée-là de parler de la Palestine dans les programmes scolaires, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui existe. On a juste une heure en terminale, en première, en histoire. On en parlera très rapidement. Je pense que les parents ont une responsabilité. Ils doivent partager ce savoir-là. Le savoir doit être partagé auprès des jeunes. On doit aussi, nous, en tant que moi, par exemple, une personne de 30 ans, je dois aussi sensibiliser ces personnes-là. Des conférences doivent être menées, que ce soit en université, aussi dans les écoles, pour parler de la situation sans pour autant rentrer très dans la politique, mais avoir au moins parler de la Palestine de 48, que ça ne remonte pas au 7 octobre, qu'il y avait des Palestiniens en 48 qui vivaient en communauté avec les musulmans, les chrétiens et les juifs qui vivaient ensemble et qu'il n'y avait aucun problème, mis à part qu'on était sous mandat britannique et que ça fonctionnait très bien. Et qu'après, il y a eu l'idée du sionisme qui arrivait en créant un État à partir d'une religion. Ce qui est le début du racisme et de l'apartheid.
Nous, on n'en parle pas en cours ou quoi que ce soit.
On devrait en parler.
Pour moi, oui, on devrait s'exprimer à ce sujet-là.
À la maison, on en parle beaucoup. Je dis aux parents d'en parler, mais tout en restant clair sur ce qui se passe et avoir l'esprit ouvert, ne pas en vouloir à qui que ce soit, mais de faire réagir là-dessus. C'est bien d'en parler à ses enfants et de dire qu'il n'y a pas de responsable. La France n'est pas responsable de ce qui se passe en Palestine. Et je pense que beaucoup d'Israéliens ne sont pas responsables. Je pense que c'est une histoire de gouvernement.
En fait, la première chose qu'il faut, c'est pas refuser la discussion. Parce qu'il y a 2 chances sur 3, quand un jeune demande à parler du sujet, il est rapidement envoyé en touche. Sous prétexte que c'est un sujet qu'il faut éviter parce qu'on n'a pas les éléments, que ça finira jamais, que voilà. Et que surtout, on a un enfant dans le besoin d'apprendre et un adulte qui est complètement, comment dire, dans l'ignorance de l'histoire et du respect du droit international. Donc on est dans une configuration maître-élève où on a un élève qui demande et un maître, alors au sens noble, qui est incapable. Donc la seule solution, c'est, non, on n'en parle pas ici, ou bien, ouais, bon, tu sais, ces sujets-là, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Ben non, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut parler de droit international et de respect du droit international. Et on voit qu'on a un gouvernement Israël mené par Netanyahou d'extrême droite qui a rallié un ensemble de partis suprémacistes qui veulent détruire les Palestiniens, qui colonisent en permanence, qui s'en fiche, mais alors totalement des résolutions de l'ONU, qui rappellent le droit international. Donc, en fait, il n'y a aucun souci quand on parle du vrai sujet, celui du droit international, du droit humain et du respect des libertés des peuples. Voilà. De mes 45 ans hors taxe, ouais. Je vais essayer de me placer dans une mentalité de jeune de 2024. Et j'ai la chance d'être avec un microcosme au quotidien avec des jeunes. En fait, il y a plusieurs entrées. Il y a celui de « je veux savoir ce qui se passe », mais il y a aussi surtout celui de « je ne comprends pas la géométrie variable ». Comment ça se fait que pour ça, eh ben, il y a des médias, il y a des possibilités, et pour ça, c'est pas possible, c'est non autorisé, c'est même tabou. Donc en fait, on a une demande de réponse sur un fonctionnement national, médiatique, à géométrie variable. Voilà. Donc, les questionnements, bah, bien sûr, pour un ado, un pré-ado, on est sur de la crise identitaire, de la crise politique et de l'indignation. Donc, il faut lui donner des réponses, mais il faut être capable de les donner, les réponses. Et pour les gouvernements aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Le taux d'abstention chez les jeunes, on va parler politique, mais il est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils sont, je dirais pas qu'ils sont complètement désintéressés, c'est qu'ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus. C'est déphasé entre ce qu'ils voient réellement et ce qu'on entend dans les médias et dans les bouches de nos politiques et de la non-politique internationale de la France et de Macron. Parce que, attendez, en 2024, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le monopole, quand je dis « ils », c'est-à-dire la sphère médiatique mainstream, n'a plus le monopole de la communication. Donc il y a un moment... Il faut répondre aux questions. Répondons aux questions de la jeunesse.
Alors oui, je fais ce travail-là, en tout cas d'aller dans des conférences au niveau des universités pour discuter de la Palestine. J'en échange aussi autour de moi. Après, malheureusement, c'est très compliqué parce que forcément, le gouvernement français ne nous facilite pas aussi la tâche. Quand on veut faire des conférences sur la Palestine, on est souvent caractérisé aussi des fois comme antisémite, alors qu'il y a une différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisionisme, c'est être contre l'idéologie du sionisme, qui est la création d'un État à partir d'une religion, et plein d'autres aspects, que l'antisémitisme, c'est être contre une religion. Nous, on n'est pas contre une religion. Au contraire, il y a des juifs qui sont antisionistes et qui sont pour la Palestine. Donc on essaye de discuter, en tout cas au quotidien, de tout ça. Autour de nous, je pense qu'il y a une responsabilité aussi au niveau des familles. Les familles doivent, ceux qui ont cette connaissance de la Palestine, doivent en parler et c'est ce qui est important, le savoir doit passer.
Dans un état comme le nôtre, on peut porter la kippa et aller discuter de ce qui se passe là-bas avec des représentants du soutien à la Palestine.
Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui portent la kippa et qui sont déjà contre l'État d'Israël, contre le sionisme. Au-delà de ça, il y a même des sionistes qui sont contre ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc oui, tout à fait, on est dans la discussion, on n'est pas dans l'exclusion. Au contraire, on essaye de faire avancer les choses. Et comme je vous dis, dans cette manifestation actuellement, dans ce rassemblement à Douai, il y a des juifs qui sont pour la Palestine et qui peuvent porter leur kippa sans souci. Notre problème, il n'est pas contre les juifs, il est contre le gouvernement de Netanyahou et contre le sionisme de base.
Votre famille, là-bas à Gaza, elle sait ce qui se passe actuellement, ces mouvements de soutien qui se développent un peu partout. Et est-ce que ça compte pour eux et à quelle hauteur, quand on est dans une urgence extrême de survie?
Alors, ils sont au courant, via mon biais, parce que moi, quand j'ai de la communication avec eux, je n'hésite pas à envoyer des vidéos de manifestations, de rassemblements. Et en plus de ça, il y a aussi Palmed, qui est une ONG de médecins, qui sont partis actuellement à Gaza, qui sont rentrés à Gaza, et qui ont montré que, ben voilà, il y avait des médecins français, en tout cas, qui étaient intéressés par le sort des Palestiniens de Gaza, et qui sont partis les soigner, qui sont partis en soutien avec eux. Et je pense que c'est important pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et ils sont au courant qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des chaînes comme Al Jazeera qui diffusent pas mal de photos, de vidéos sur les manifestations au niveau international, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et tout ça est vu par la population de Gaza.
Si j'arrête d'être client, parce que vous appelez également au boycott de certaines marques, de certaines enseignes de distribution, si je participe à ce boycott, ça n'empêchera pas l'État français de vendre des armes?
Alors, cette question est très intéressante. Alors, continuons le boycott, Et continuons la mobilisation pour l'arrêt du partenariat en armes et de la vente des armes. Pourquoi choisir entre l'un des deux ou pourquoi vouloir être pessimiste en disant c'est l'histoire du colibri hein, que j'ai cité à deux ou trois reprises. Hein. Je fais ma part. Le feu est dans la jungle ou dans la forêt. Voilà, on se moque de moi, les éléphants se moquent, les lions se moquent. Mais moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part de citoyen. Je demande à tout le monde de faire sa part de citoyen. Et bien entendu, le boycott, ça fonctionne. Ça fonctionne quand on revoit les dernières publicités de Carrefour. On est essentiellement sur une orientation de la communauté musulmane pendant le ramadan, alors que ça n'a jamais été existé. Ça n'a jamais existé. Les chiffres le prouvent. Le boycott fonctionne. C'est ce qui a permis de pouvoir faire renverser le gouvernement dictatorial en Afrique du Sud. C'est là qu'est né vraiment le boycott. Aujourd'hui, on le poursuit. Mais alors ça fait 13 ans qu'il y a un groupe local de Bordeaux qui a été traîné au tribunal pour un boycott qui a été fait sur Bordeaux, en sachant que c'était sur une circulaire d'Alio Marie, je pense. Mais il n'y a pas plus tard que 2 jours ou 3 jours, on a eu gain de cause. Au bout de 13 années, le boycott s'est reconnu, au niveau de la CIG, au niveau de la Cour pénale, que c'est reconnu comme un outil et un acte légal légitime.
C'est pas les moyens qui manquent à l'armée sioniste pour nous éradiquer. Si on est encore présent aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à d'autres personnes qui sont mobilisées aussi à l'extérieur et qui mettent la pression internationale. En fait, ils mettent une pression au gouvernement. Et si on n'était pas là, actuellement, les Palestiniens n'existeraient plus aussi. Il faut se le dire, il y a une sorte de résistance que nous, on mène pacifique, qui fait en sorte que le plan sioniste ne voit pas le jour, le grand Israël ne voit pas le jour, parce qu'il y a une pression internationale, parce qu'on est là, parce qu'on est mobilisé, parce qu'on dit non, pas en notre nom. On ne veut pas que vous fassiez ça au nom du peuple international. On veut que vous arrêtiez tout ça, et que c'est grâce à nous qu'on fait peur aussi à nos gouvernements et qu'on leur dit de faire pression indirectement à l'État sioniste malgré leurs alliances. Ils ne sont plus à un stade où ils veulent négocier la libération des otages. C'est même plus dans leur plan, etc. Ce qu'ils veulent, c'est juste terminer avec la population civile de Gaza, de provoquer un exode massif et de récupérer la Palestine tout entière.
Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous
des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens.
Espérer un cessez-le-feu, c'est-à-dire que c'est banalisé, aïe, c'est logique qu'on massacre et ça continue. Non, on n'espère pas, on exige le cessez-le-feu tout de suite, et on espère la paix, on espère aussi l'autonomie des peuples palestiniens et israéliens, on espère la solution aux deux États. Là, on peut parler d'espérance, mais non, le cessez-le-feu, rassurez-moi, on ne parle pas d'espérance, on l'exige, on ne peut pas espérer un cessez-le-feu, on a déjà perdu. Alors comment continuons la mobilisation, continuons à exister, à montrer qu'on n'est pas d'accord, continuons à soutenir le droit international et le respect du droit international.
On a l'impression qu'ils n'écoutent rien et qu'ils veulent juste appliquer leur plan et éradiquer toute la population, des civils, des enfants, des femmes, des écoles, des hôpitaux. Et ils n'ont plus aucune limite, en fait. Ils veulent tout simplement éradiquer la population palestinienne.
Toutes les strates de la société française, du demandeur d'emploi jusqu'à l'artiste, doit s'exprimer sur la situation des peuples opprimés. Des peuples opprimés. Et je ne voudrais pas faire de concurrence sur les peuples opprimés. Des peuples opprimés. Et actuellement, aujourd'hui, Gaza, bien sûr. Alors, pour la question, nous, l'Association France-Palestine Solidarité, merci pour cette transition. C'est prévu hein, dans le cadre des actions culturelles. On organise prochainement au Conservatoire de Douai, j'espère, puisqu'on est en partenariat avec la ville de Douai. On reçoit une artiste arabe qui va chanter les vers du poète célèbre Mahmoud Darwish au Conservatoire de Douai. C'est dans les projets. Donc il y a une entrée culturelle. Il y aura une entrée au droit, en droit international, à la fac de droit. Voilà. On décide, l'orientation de l'association, c'est de mener des actions dans toutes les strates, qu'elles soient culturelles, juridiques, étudiantes, politiques, populaires. Voilà, c'est toutes les entrées sont bonnes. Et bien entendu, on ne peut que féliciter de oser pour un artiste de s'exprimer. Parce qu'on sait très bien, on reprend l'exemple des États-Unis où le monde des stars et le monde de Hollywood Et voilà, et encore, c'est tabou. On a vu des carrières qui ont malheureusement, comment dire, été stoppées par rapport à des positionnements. Voilà, moi je pense que c'est aussi l'ADN de l'artiste. Voilà.
Samedi 16 mars 2024, 11h, place d'armes à Douai. Rassemblement citoyen pour demander l'arrêt immédiat des combats à Gaza.
Bah, il se passe un génocide et je trouve ça franchement pas bien et il faut réagir. Il y a des enfants qui meurent, des femmes et voilà, il y a le nombre de morts, tu vois que c'est un génocide, donc pour moi c'est important de soutenir cette cause.
Reportage Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.